Le député Nicolas Metzdorf, invité sur Radio Rythme Bleu ce matin, il est revenu sur la visite des présidents des chambres parlementaires la semaine dernière. La souveraineté partagée, ça veut tout dire et rien dire, a-t-il notamment déclaré. Sud Tourisme innove et lance la Marketplace, une plateforme de réservation qui permet aux touristes de réserver et payer l'ensemble de leur séjour en province sud. Dans la région, nouvelle crise politique au Vanuatu. Le président vanuatais a annoncé ce matin la dissolution du Parlement. En métropole, les agriculteurs relancent leur mobilisation. Ils dénoncent notamment les effets néfastes de l'accord de libre-échange, le Mercosur, discuté en ce moment au G20. Et puis du football dans la page sport avec la fin de la phase de poule de Ligue des Nations. On connaît désormais les 8 pays qualifiés pour les quarts de finale qui auront lieu en mars 2025. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La sécheresse qui sévit en Calédonie met les services de sécurité et d'incendie sur les dents. Les pompiers qui sont en première ligne vivent une saison compliquée. Nous en parlerons dans le magazine Citoyen tout à l'heure, dès la fin de ce journal. Nous serons pour cela en compagnie du capitaine Maël Kerlaguer, chef de corps du centre de secours de Lafoy, du capitaine Bruno Chitoussi, chef de corps du centre de secours de Dembéa, et du capitaine Gwendal Cambon, qui est chef de corps du centre de secours de Païta. Nous serons aussi avec Brice Régent, le directeur du SIVM Sud, et d'Arnaud Banfil, le directeur du SIVOM VKP. Citoyen, sécheresse à retrouver dès la fin de cette édition. L'indépendance association est un déni démocratique et moral. C'est l'affirmation du député Nicolas Metzdorf. Il était ce matin notre invité à 7h30, Elisabeth Noir.
Le député de la première circonscription va partir pour Paris dans le cadre de la défense des amendements qui doivent être maintenus dans le projet de loi de finances après son rejet par l'Assemblée nationale. Interrogé sur la visite des présidents du Sénat et de l'Assemblée, il n'est pas très enthousiaste. Il revient notamment sur l'expression de souveraineté partagée utilisée par Gérard Larcher. Une expression qu'il trouve ambiguë.
En fait, ça veut tout et rien dire, la souveraineté partagée. Et forcément qu'à ce moment-là de l'histoire, après des émeutes, après un statut déjà de très large autonomie où les compétences sont partagées entre l'État et la Nouvelle-Calédonie, parler de souveraineté partagée, ça ne peut être compris que comme l'indépendance association. Et l'indépendance association, ça c'est le truc à la mode en ce moment. Je vais être clair sur le sujet. L'indépendance association, au-delà d'être un déni démocratique et moral.
L'indépendance association déni démocratique et moral, Nicolas Metzdorf s'est expliqué sur cette accusation.
Déni démocratique, les Calédoniens ont voté trois fois pour que ça soit français, donc on ne peut pas dire que derrière on finit avec une indépendance association. Ça serait complètement ahurissant. C'est un déni moral, parce que ça voudrait dire qu'il suffit de tout casser, de tout brûler pour qu'on obtienne ce qu'on veut. Donc ça, c'est impossible non plus. Et c'est un déni de réalité aussi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été aussi dépendant de la France que maintenant. Donc comment on fait pour demander des milliards d'euros à la France pour sauver la Nouvelle-Calédonie et dans le même temps demander de transférer d'autres compétences à la Nouvelle-Calédonie et de nous rendre complètement indépendants de l'État? Comment on fait dans les prochaines années pour reconstruire la Nouvelle-Calédonie, pour sauver nos entreprises, pour sauver nos institutions si on demande l'indépendance association derrière? Vous croyez que l'État, qui est en difficulté budgétaire, va dire « Chers Français, chers compatriotes, désolé, on ne peut pas vous construire des ponts, des autoroutes, des hôpitaux et des écoles en Aquitaine, en Bretagne ou en Alsace parce qu'il faut qu'on donne des milliards d'euros à la Nouvelle-Calédonie qui a choisi d'être indépendante. » Ça ne marchera pas comme ça. On va être complètement ruiné. L'indépendance association est une faute politique aujourd'hui, est une faute économique.
Faute politique, faute économique et de surcroît, explique le député de la première circonscription, l'indépendance association ne réglerait rien.
On croit que parce qu'il y a des loyalistes qui veulent la France et des indépendantistes qui veulent l'indépendance, il suffit de trouver le truc au milieu pour que tout le monde soit content. Mais est-ce que l'indépendance association va régler le racisme? Est-ce que l'indépendance association va régler le problème des revendications foncières? Est-ce que l'indépendance association va régler les problèmes de délinquance? Est-ce que l'indépendance association va régler les problèmes d'intégration de la population kanak dans le modèle capitaliste et économique? Non. L'indépendance association, c'est une vue de l'esprit des énarques parisiens qui veulent nous faire croire que c'est la solution d'entre deux. Mais ça, on l'a déjà essayé. C'est l'accord Nouméa. On était parti de Matignon et des provinces pour dire on va faire un truc entre deux, une très large autonomie, l'accord Nouméa. Comme ça, ça va plaire aux loyalistes et aux indépendantistes. On a vu le résultat. Donc l'indépendance association, c'est niet.
Concernant les discussions sur l'avenir, le député de la première circonscription estime que la venue de Gérard Larcher et de Yael Braun-Pivet n'a permis d'arrêter ni un calendrier ni une méthode. Il pense que l'initiative doit venir des Calédoniens eux-mêmes. On doit commencer les discussions entre nous, dit-il, sans attendre un calendrier de l'État. Et il se réjouit en revanche de l'attitude du Palika et de l'UPM qui ont pris leur distance envers le FLNKS.
C'est bien, c'est excellent. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent un FLNKS uni, ça nous aide dans les discussions. Non, on a besoin d'avoir chez les indépendantistes des gens qui disent que le projet, ce n'est pas de casser, de brûler et d'être raciste. On a besoin d'entendre ça, on a besoin d'entendre ces paroles-là. On n'a pas besoin d'un FLNKS uni qui reprend des éléments de langage pour faire plaisir à tout le monde. Je crois que le fait que la démocratie vive, que les opinions politiques divergentes vivent dans le coin indépendantiste est une bonne chose.
Et pour le député de la province de circonscription, la CCAT en revanche n'a pas sa place autour de la table des discussions. Concernant les partisans de la France, Nicolas Metzdorf croit qu'il faut refaire le RPCR, un front uni, dit-il, parce que la situation est grave et qu'il est possible de défendre un projet commun. Pour cela, il préconise de revenir à l'esprit des accords de Matignon. Une interview de Nicolas Metzdorf à retrouver, bien sûr, en audio et vidéo sur le site internet d'RRB.
Le Salon des maires 2024 s'est ouvert hier au Palais des Congrès d'Issy des Moulineaux, près de Paris, avec la traditionnelle journée consacrée aux Outre-mer. Et la Nouvelle-Calédonie est représentée à ce salon avec une petite délégation. Contrairement aux autres années, seuls trois maires ont fait le déplacement, ceux de Boulou-Paris, de Koumac et de La Foy, Elisabeth.
Et ils en ont profité pour alerter la métropole de la situation des communes de Nouvelle-Calédonie, pour alerter sur les finances exsangues de ces communes et pour demander de nouveau à l'État une aide exceptionnelle pour œuvrer à la reconstruction de l'économie du territoire. C'est Pascal Vittori, le président de l'Association française des maires, qui a lancé cet appel lors d'une conférence de presse.
On est dans une situation où beaucoup de Calédoniens ont perdu leur emploi, dans l'incapacité de payer leurs factures d'eau, d'électricité, de logement. On a des impayés sur les cantines scolaires, sur le transport scolaire, sur les poubelles, sur l'eau, tous les services communaux. On arrive dans une situation où les gens commencent à manquer de nourriture. On constate que dans les logements sociaux, les logements se vident parce que les gens sont obligés de vendre leurs meubles pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et on est dans une situation aujourd'hui où les communes n'ont plus les moyens d'aider la population. C'est-à-dire que les services sociaux des communes n'ont plus de budget pour pouvoir aider les populations en difficulté. Les communes ont pris leurs dispositions pour ce qui est de l'année 2024. Elles ont adapté leur budget. Mais par contre, on n'a aucune information, on n'a aucune perspective du gouvernement calédonien qui est incapable de nous dire quelles vont être les recettes perçues en 2025. Et donc, aujourd'hui, la seule entité qui est capable de nous sauver, c'est l'État. Et donc, c'est pour ça qu'on fait appel à l'État.
Aujourd'hui, la seule entité capable de nous sauver, c'est l'État, affirme Pascal Vittori, qui plaide donc pour une aide exceptionnelle ainsi qu'une loi de programmation sur 3 ans pour permettre aux communes de sortir de la crise. En écho, le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, a déclaré que la Calédonie doit faire l'objet d'une solidarité nationale et que dans ce travail de reconstruction, les communes qui sont en première ligne ne doivent pas être oubliées. Le maire de Koumac, Wilfried Weiss, qui est aussi vice-président de l'autre association des maires de Nouvelle-Calédonie, est revenu sur les difficultés rencontrées par les communes calédoniennes depuis le 13 mai. Il affirme que dans le futur statut, le développement passera par les communes.
Ce que je voudrais dire, c'est que quand on va reparler de la reconstruction, il y a une chose que j'ai dit au président Mapou et au ministre des Outre-mer lors d'un colloque à Nouméa, c'est qu'on ne construit pas sur du sable. Aujourd'hui, on a prévu 4 piliers pour la reconstruction, mais les piliers, si on les met sur du sable, on n'y arrivera pas. Donc aujourd'hui, il va falloir surtout qu'on travaille sur le statut de la Nouvelle-Calédonie, sur l'avenir institutionnel de notre île. Et pour ma part, le développement économique de l'île va passer par les communes. Et aujourd'hui, ce sont les communes qui sont en première ligne. Le développement local doit devoir commencer par nous. Et la réflexion, il faudra qu'on l'amène le plus rapidement possible de façon à ce que l'on parte du développement local pour ensuite aller vers le développement de l'ensemble de Nouvelle-Calédonie.
Présente aussi à Paris, Florence Roland, le maire de La Foy, qui arrivait de Guadeloupe, où elle a été élue présidente de l'ACCDOM, l'association des collectivités et des communes d'outre-mer. Le maire de La Foy regrette qu'il y ait eu beaucoup d'annonces de la part de l'État, mais peu de concrets. Et elle demande notamment le maintien des renforts de forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie.
Aujourd'hui, nous allons, enfin je l'espère très rapidement, entamer des discussions, mais nous ne sommes pas dupes. Le territoire tanguera très certainement de nouveau. On nous demandera, nous, maires, d'organiser des élections provinciales. Alors on ne sait même pas si on aura les moyens d'organiser des élections, mais dans quel contexte, en toute sécurité ou pas. On va demander à nos services, parce qu'il y a aussi ça, il y a tous ces agents communaux qui ont travaillé à nos côtés pendant cette période de crise, qu'on va encore mettre sur le front en leur demandant de tenir des missions. Et donc nous avons besoin d'avoir une garantie de l'État que nous serons accompagnés au niveau de la sécurité.
Pour donner de l'espoir aux générations futures, le soutien de l'État est plus que jamais nécessaire, a encore déclaré Florence Roland. Des propos recueillis à Paris par notre correspondant Xavier Robert.
L'actualité en Calédonie toujours, et Sud Tourisme lance sa Marketplace. C'est un vaste site de réservation en ligne pour les touristes calédoniens, mais aussi internationaux, Nicolas Legrand.
Oui, ce nouveau site est une petite prouesse technique. Il s'agit d'une grande plateforme sur laquelle vous allez retrouver les prestataires touristiques et surtout, vous allez pouvoir réserver en ligne l'intégralité de votre séjour. Un site qui a été construit d'ailleurs à la demande des prestataires touristiques de la province sud. Vous en retrouverez pour le moment 70, mais Sud Tourisme travaille à en augmenter le nombre. L'agence d'attractivité accompagne d'ailleurs les professionnels du secteur afin de commercialiser leurs prestations sur Internet. Alexandra Gambino est responsable de la commercialisation sur Sud Tourisme.
Cet outil est en fait un site de vente en ligne qui permet de réserver tout son séjour dans un même panier. Donc vous pouvez réserver en un clic votre vol, votre hébergement, vos activités, votre transport, vos navettes et tout un tas d'autres choses. C'est un outil qui est très innovant et structurant pour le secteur puisqu'il permet d'intégrer à la fois les petits et les gros prestataires, j'ai envie de dire, qu'ils soient digitalisés ou non. L'outil permet vraiment de créer une synergie entre tout l'écosystème. La philosophie, justement, c'est d'en faire un outil vraiment porteur pour le secteur et justement que ça soit un outil qui fasse travailler les uns avec les autres, que la visibilité des uns bénéficie aux autres, etc. Donc un outil qui soit vertueux et qui contribue en fait du coup aux revenus de nos professionnels et aux retombées économiques pour le secteur.
Et ce site devait initialement sortir le 19 mai. La province sud a décidé de le lancer aujourd'hui, notamment pour permettre aux prestataires de se familiariser avec l'outil au moment des grandes vacances, afin d'être fin prêt quand les touristes internationaux reviendront. Un secteur d'avenir pour la relance économique, selon Sonia Baquès, la présidente de la province sud.
Ça fait aussi partie des réflexions qu'on a sur le fait qu'on ne doit pas forcément tout refaire pareil qu'avant. On sait qu'on a une économie qui est très liée au nickel et on est très heureux tous que l'usine du Sud reprenne et qu'on ait une chance de reprise. Mais on a intérêt à développer d'autres secteurs et je suis convaincue que le tourisme en fait partie. Même si on a des difficultés structurelles liées au prix des billets d'avion, liées au coût du travail, donc on n'est pas concurrentiel avec un certain nombre de destinations de la zone. Mais par contre, on a un tourisme particulier lié au développement durable, lié au fait qu'on a le plus beau lagon du monde sans être chauvin, qu'on a des endroits exceptionnels en termes d'activités de pleine nature, en particulier sur la zone Farino, Saramea, Moindou, etc. On a des activités exceptionnelles qui sont très demandées et qu'on peut développer. Et c'est vrai que ce type d'outil-là, ça permet aussi de faire connaître des choses parce qu'on n'a pas forcément connaissance de tout ce qui existe en province sud.
Le site sudtourisme.nc devrait continuer d'évoluer avec de nouvelles fonctionnalités qui sont déjà annoncées pour l'année prochaine.
À Radio Rythme Bleu, 11h43.
L'actualité dans la région également à la une ce midi avec cette énième période d'instabilité politique qui s'ouvre au Vanuatu. Le président vanuatais vient en effet d'annoncer une nouvelle dissolution du Parlement. Les explications de Jean-Pierre Zajac.
Cette dissolution du Parlement fait suite au dépôt par l'opposition de deux motions de censure séparées. La première visait le chef du gouvernement, Charles Salwai, et la seconde, le président de la République, Nikenike Virumbaravu. La recevabilité de ces deux motions avait été confirmée par le président du Parlement, Seul Siméon, lequel avait estimé dans un communiqué qu'elle satisfaisait aux exigences constitutionnelles. La décision du chef de l'État de dissoudre le Parlement va se traduire par de nouvelles élections législatives. La commission électorale de l'archipel aurait déjà pris des dispositions en ce sens. L'opposition parlementaire, quant à elle, entend se pourvoir en justice pour contester la décision du président Virumbaravu. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
On va marquer une première pause dans ce journal avant de se retrouver pour la suite de l'actualité en Calédonie et notamment pour évoquer la situation financière de trésorerie très tendue de la province des îles. C'est le constat dressé par la Chambre territoriale des comptes.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
Depuis quand tu fais autant les magasins?
J'ai trouvé le secret pour dépenser moins.
Ah ouais? T'as gagné au bingo ou quoi?
Mieux que ça, j'ai découvert l'appli MDF avec le pass MDF. Ça te donne accès à des tarifs avantageux.
Sérieux? T'as chopé ça où?
Vous êtes adhérent de la MDF? Alors téléchargez l'application dès maintenant. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mdf.nc.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Une situation financière et de trésorerie très tendue, c'est le constat de la Chambre territoriale des comptes à l'occasion de son contrôle de la province des îles Loyauté depuis 2018. Elle relève une forte hausse des charges de personnel ainsi que des pratiques qui ne permettent pas de garantir l'efficacité de l'achat public et le respect des principes fondamentaux de la commande publique, Nicolas Legrand.
Oui, la Chambre territoriale des comptes relève que la situation financière de la province des îles est compromise par la faiblesse persistante du niveau d'épargne. Elle parle aussi d'une situation de trésorerie critique et en conséquence, elle recommande à la province d'adapter une stratégie de redressement de la trésorerie. La Chambre territoriale des comptes relève aussi une forte augmentation des dépenses de personnel de la province des îles, avec notamment une hausse du nombre d'agents sur poste non permanent, dont les collaborateurs de cabinet et de groupes d'élus. La Chambre recommande donc à la province d'adopter un plan stratégique pluriannuel de réduction des effectifs et de la masse salariale. Autre élément de critique de la part de la Chambre, un manque de rigueur en matière d'achat public. Et elle rappelle à la province l'obligation de mettre en œuvre des procédures qui permettent de mieux contrôler ce secteur. Un rapport et des observations dont le président de la province des îles a pris connaissance. Mais Jacques Lallier estime que la Chambre des comptes ne prend pas suffisamment en compte la réalité de sa province.
Nous avons passé ça en assemblée, on aura une commission plénière sur le rapport. Oui, on a corrigé, on a essayé de corriger. Les recommandations, on a eu des réponses par rapport à la commande publique. On a aussi des réponses qui ont été données et une réorganisation, notamment sur les commandes de tout ce qui est matériel de la province ou des femmes de service et tout ça. Donc on a 3 îles. Donc tout ce qui est organisation est multiplié par 3. Et ça, je pense que toutes qui viennent de loin, ben, ils tiennent pas compte de ces réalités.
Jacques Lallier qui reconnaît une situation de trésorerie très tendue, mais la province des îles n'est pas la seule dans ce cas, dit-il.
On a une situation financière difficile. Regardez s'il n'y a que nous, et vous verrez que c'est tout le monde. Et en plus, c'est encore plus difficile parce qu'on est à 3 îles, 3 pays différents, 3 aéroports, 3 ports. Donc voilà, c'est des réalités que nous, on vit et qu'on a l'impression que tout le monde s'en fout un peu de nous. Donc voilà, je dis ça pour vous choquer. Et en réalité, ben, c'est notre réalité. Alors, on aimerait bien que les gens ils prennent un peu en considération les réalités.
Et il faut noter que la Chambre territoriale des comptes avait suspendu la publication de ses rapports depuis le 1er septembre dernier parce que les élections provinciales devaient avoir lieu avant le 15 décembre. Elle reprend donc ses publications en raison du report des élections à la fin novembre 2025.
À l'arrêt, depuis le début des émeutes, le site de l'usine du Sud retrouve de la vie. Une partie des salariés est retournée sur place il y a quelques jours pour reprendre l'activité et forcément pour les employés, cette reprise est un soulagement.
Oui, content. On a bien repris. Mais là, on a fait 5 jours au lieu de faire 4 jours. Je travaillais au secteur de la mine.
Ça a été, ça va. Ça fait 5 jours qu'on est là-haut. La mécanique sur la mine, on a retrouvé tout ça comme on l'a quitté.
Et la reprise, content de reprendre le travail?
Ah oui, ça fait du bien d'aller au travail.
Comme on avait laissé, tranquille, un peu mou, ben voilà. On fait avec, on rappelle les collègues, change un peu les idées pour tous les émeutes.
Ça s'est bien passé, tranquille. Je suis dans la maintenance. C'était calme, mais sinon, toujours pareil. Tout s'est bien passé.
Et content de reprendre le travail ?
Oui, ah oui, soulagé surtout. Parce qu'au moins, on a un petit espoir de reprendre une vie normale, on va dire. De avoir un travail et puis de pouvoir continuer à vivre financièrement, être indépendant, quoi.
PRNC a été pénalisé par le blocage de la RP1, mais aussi par les dégradations sur la ligne électrique à Saint-Louis. L'entreprise a également rencontré des difficultés d'accès à la ressource en eau pour son activité. La reprise programmée de cette activité est donc une bonne chose, puisque le repreneur intéressé, le Sud-Africain Sibanye Stillwater, souhaite voir l'usine en fonctionnement avant de se prononcer.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu et voici notre question du jour. Après la remobilisation des équipes de Prony Resources, dont une partie a pu reprendre le travail, pensez-vous que l'usine du Sud va pouvoir être sauvegardée? Si vous pensez que oui, vous tapez 1, si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à notre question d'hier, 89% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que l'attitude du FLNKS, qui affirme être le seul représentant du peuple kanak et exige d'être partie prenante aux futures négociations, peut retarder la reprise des discussions sur l'avenir institutionnel. Ils sont 11% à être d'un avis contraire. La reconstruction au cœur de la deuxième édition de la Biennale de la Construction, Biennale qui se déroule aujourd'hui au Théâtre de Lille et qui rassemble de nombreux acteurs du secteur, Léo Fichou.
Et oui, pas moins de 160 personnes participent depuis ce matin 8h aux différentes tables rondes et au temps d'échange prévu par les organisateurs. Une journée pour tenter de mener une réflexion commune sur les enjeux de la construction, un secteur du BTP fortement impacté par les exactions mais qui met tout en œuvre pour reconstruire autrement. Djamil Abdelaziz, directeur de projet en charge du référentiel de la construction de la Nouvelle-Calédonie.
Il faut passer par là, c'est un point de passage obligé pour redynamiser et réorienter le secteur. Voilà, donc ensuite, il y a toute une série de thématiques sur les outils qu'on mettra en œuvre, les moyens qu'on y mettra, la décarbonation, etc. Le grand point de satisfaction, c'est qu'on a beaucoup d'apprenants. Donc les jeunes générations sont là, et donc pour nous, c'est vraiment important que les échanges que l'on a en ce moment soient relayé au niveau scolaire, au niveau des étudiants, parce que ce que l'on prépare, c'est l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, et l'avenir de la Calédonie, c'est eux. C'est eux les futurs constructeurs, et c'est eux qui seront les acteurs de la construction de demain.
Et effectivement, les jeunes ont eux aussi répondu présent. Ils participent aux échanges, aux tables rondes, dans la salle de conférence, mais tiennent également un stand de présentation de leur projet. ALS est en première année de BTS ERA, études et réalisation d'agencement au lycée Jules Garnier.
Présenter les projets que nous avons réalisés depuis le début de l'année. Il y a un sur le foyer du lycée Jules Garnier et l'autre sur l'exposition Terra Fibra. Et aussi venir poser des questions à les personnes concernées. C'est tout ce qui est pour le bâtiment. Et comme nous, notre BTS à nous, c'est l'architecture du bâtiment intérieur. Et on est venu présenter ce qu'on sait faire et dans quel contexte.
Et ce matin, dans la salle de conférence, les jeunes étudiants, mais aussi les acteurs du BTP, ont pu poser leurs questions à Éric Lafitte, le directeur de la société Arbe, a rappelé que oui, l'activité s'était effondrée, mais qu'il fallait être positif pour l'avenir.
La Biennale de la Construction, c'est aussi être positif et faire avancer le métier sur des manières de travailler en intégrant notre côté outre-mer qui n'est pas toujours pris en compte en métropole et puis aussi en mettant en avant des nouveaux matériaux plus environnementaux. La seule chose qui peut sauver nos entreprises qui sont réduites purement à nos compétences, c'est les fonds publics, c'est l'État qui peut nous sauver par des financements massifs en lançant des opérations puisque au niveau du privé, de la reconstruction, c'est une chose qui ne peut s'imaginer que dans un second temps qu'elle a une confiance sera revenu.
Et la deuxième édition de la Biennale de la Construction continue jusqu'à 16h30 au Théâtre de Lille.
Et puis une fresque haute en couleur a été inaugurée ce matin au lycée d'Ikukewe à Dumbéa, une fresque réalisée par l'artiste calédonienne Lula Kwako avec l'aide des élèves du lycée. Malgré la période d'exaction et la disparition du studio 56, la ville de Dumbéa a en effet maintenu ses résidences artistiques qui ont en lien avec le programme d'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire. C'est ce qui a permis l'inauguration de cette fresque ce matin. Nous y reviendrons dans le journal ce soir à 17h45. En attendant, l'heure d'une nouvelle pause avant de voir l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
Hey, c'est l'été! Envie de vacances sans prise de tête en province sud? Sud Tourisme vous simplifie la vie avec sa nouvelle marketplace. Réservez hébergement, activités, resto, navettes et même vos billets pour les événements. Tout au même endroit. Tout est centralisé. Tout est simplifié. Tout est dans un seul panier. En solo, en famille ou entre amis, planifiez votre séjour comme vous l'aimez, facilement et en toute sérénité. Sudtourisme.nc, la première marketplace du territoire pour un séjour sur mesure.
Sudtourisme.nc, le site de réservation officiel de la destination pour un séjour sur mesure.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité nationale et internationale, on retrouve Jean-François Baudin.
En métropole, les agriculteurs se mobilisent à nouveau, ils l'avaient annoncé depuis plusieurs jours. Rien n'a avancé, estiment-ils, depuis leur mobilisation en début d'année dernière. Ils ne peuvent pas vivre de leur travail en raison des multiples contraintes environnementales et économiques qui pèsent sur leur activité. Fortement concurrencés en plus par un libre marché qui les pénalise. La nuit dernière, ils ont donc mené plus de 85 actions. Ils ont notamment bloqué le pont vers l'Europe entre Strasbourg et l'Allemagne. Mélina Fachin pour Europe 1.
Environ 300 tracteurs bloquent complètement le pont de l'Europe. Claude Serialier avait déjà participé aux manifestations il y a près d'un an et il est donc à nouveau mobilisé ce soir.
Sur nos fermes, à proprement parler, on n'a pas vu de grands bouleversements. Les contraintes environnementales, la pression administrative n'ont pas baissé.
Et ici, comme ailleurs en France, ce qui cristallise surtout la colère des agriculteurs, c'est le traité du Mercosur, explique Denis Maréchet.
Au Brésil, on déforeste l'Amazonie pour faire de la viande pas chère, pour faire du bœuf aux hormones, du poulet et tout ça en importe en Europe pour manger de la merde que les Français, les Européens ne veulent plus. La France, l'Europe a mis des normes en place, on les respecte à l'intérieur du marché commun, mais on les respecte pas pour les produits qu'on importe. C'est pas possible.
Emmanuel Macron et désormais l'Italie font part de leur opposition à ce traité. C'est une bonne chose, estime Mathieu, viticulteur, mais il reste prudent.
Que lui, il va se battre, on veut bien croire. Qu'il parle à son homologue italien qui dit que lui, il va s'opposer à ça, c'est bien. Mais les faits, on veut voir ça en réalité.
Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Le Mercosur, cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine, est en effet au cœur des discussions du G7 qui s'est ouvert au Brésil. La France ne veut donc pas le signer en l'état actuel et cherche des alliés européens car il s'agit de dépasser le fameux seuil des 35% de la population européenne pour constituer une majorité de blocage et donc ouvrir la voie à un rejet du traité. La Pologne, l'Autriche et les Pays-Bas se sont alignés sur la position de la France et l'Italie aussi a rejoint le camp des pays opposés au Mercosur. Jacques Serret pour Europe 1.
Il s'agit en fait d'une guerre d'influence dans les coulisses du G20 qui se tient au Brésil. Emmanuel Macron fait valoir ses arguments face aux États comme l'Allemagne et l'Espagne qui défendent l'accord de libre-échange. Et le président français peut ce soir se satisfaire d'une avancée importante. L'Italie, jusqu'ici favorable à une signature de texte, vient de se déclarer contre. Rome adopte désormais la position de Paris et exige que les agriculteurs du Mercosur soient soumis aux mêmes obligations que ceux de l'Union européenne. Autrement dit, que les normes environnementales soient équivalente via l'introduction de clauses miroirs dans ce traité. Et le revirement italien pourrait changer la donne au Conseil européen, puisqu'avec la France, la Pologne, l'Autriche et les Pays-Bas, et maintenant l'Italie, le seuil de 4 pays représentant au moins 35% de la population de l'Union européenne serait atteint. Ce seuil est nécessaire pour constituer une minorité de blocage à Bruxelles et ouvrir la voie à un rejet de l'accord.
En métropole, les avocats de la Défense ont débuté leur plaidoirie dans le procès des assistants parlementaires du Front National, devenu depuis Rassemblement National. Ils vont tenter de démonter les arguments du ministère public qui a requis contre Marine Le Pen 5 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité, ce qui l'empêcherait de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Au début de leur plaidoirie, les avocats ont fait valoir que c'est le député qui fixe le travail des assistants parlementaires, puisque c'est le député qui est leur employeur. Maître Wagner est l'un des avocats de la Défense.
Le député est libre d'organiser son travail. Et bien évidemment, on comprend que si l'on intervient dans la façon dont le député organise son travail, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il demande, ce qu'il ne demande pas, et bien forcément, on intervient dans un domaine qui lui appartient à lui seul, et on peut finir par lui donner des consignes, lui imposer des règles, et donc finalement contourner la liberté du mandat à travers ça.
Les plaidoiries de la Défense vont durer plusieurs jours. Et puis une autre décision de justice qualifiée de bien légère. Un homme de 27 ans vient d'être condamné pour avoir menacé de mort le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris. Le proviseur avait demandé à une élève de retirer son voile. Celle-ci avait ensuite menti, disant être victime de violence, ce qui avait déclenché une véritable campagne de haine sur les réseaux sociaux. « Il faut le brûler vif, ce chien », avait écrit l'accusé. Il a écopé d'une peine que beaucoup considèrent donc bien légère. Louis Salé pour Europe 1.
Une amende de 600 euros avec 3000 euros de dommages et intérêts à verser au proviseur, ainsi qu'un stage de citoyenneté de 5 jours à réaliser, mais pas de prison avec sursis alors que le parquet avait requis un an. Et cette condamnation ne sera pas mentionnée dans un casier judiciaire car il s'agit d'un fait isolé, a justifié le tribunal. Francis Leck, l'avocat du chef d'établissement, se dit stupéfait.
C'est bien évident une lourde déception. Le proviseur, au-delà de lui, c'est tous les chefs d'établissement qui sont concernés. Il faut aussi prendre en considération le trouble causé aux enseignants qui sont chargés d'une mission de service public, celle de faire respecter les lois sur la laïcité. Donc nous faisons appel du jugement en matière civile. Ce sont des affaires non seulement de principe, et de protection du monde de l'éducation.
Le proviseur qui s'est exprimé à la presse pour la première fois à l'issue du procès s'est tout de même dit satisfait que la culpabilité de l'internaute soit reconnue.
C'est important qu'il y ait des condamnations, parce que sinon tout ça sert à rien. C'est vrai que c'est pas forcément facile à vivre.
Lors de l'audience, le prévenu s'était excusé à de nombreuses reprises, regrettant son geste face au chef d'établissement qui lui décrivait un quotidien traumatisant, sa vigilance de tout instant, sa peur de connaître le même sort que Samuel Paty.
À midi, une dernière pause dans ce journal avant de voir l'actualité sportive, notamment le football. On se retrouvera ensuite pour le magazine Citoyen.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite ? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
L'actualité sportive ce midi, c'est du football. Léo Fichou avec la fin ce matin de la phase de poule de Ligue des Nations.
Et on connaît donc les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale. Le Portugal et la Croatie dans le groupe 1, la France et l'Italie dans le groupe 2, l'Allemagne et les Pays-Bas dans le groupe 3 et enfin dans le groupe 4, c'est l'Espagne et le Danemark qui sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Au prochain tour, les Bleus qui ont terminé en tête de leur poule affronteront obligatoirement une équipe qui a terminé deuxième d'une autre poule. Ce sera donc la Croatie, les Pays-Bas ou le Danemark. Le tirage au sort aura lieu vendredi soir pour nous et les quarts de finale se joueront lors de la prochaine trêve internationale, c'est-à-dire en mars.
Merci beaucoup Léo, c'est la fin de ce journal.